Décryptage, Marie Casadebé.
Gouverner l'Espagne semble relever de l'exploit. Les Espagnols vont retourner aux urnes le 28 avril pour la troisième fois en moins de 4 ans. La faible majorité du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez s'est effondrée il y a une dizaine de jours. Son alliance avec les indépendantistes catalans était trop fragile. Des indépendantistes qui, par leur coup d'éclat en octobre 2017 et leur référendum illégal, ont bouleversé le paysage politique espagnol. La question catalane polarise, mais mal à l'aise la gauche traditionnelle et profite à l'extrême droite. Comment s'est-elle imposée dans le débat politique espagnol? À qui profite-t-elle? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Anthony Sfez.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes spécialiste de l'Espagne, attaché d'enseignement à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Et nous sommes en ligne de Barcelone avec le journaliste Henri de Laguérie. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur de l'ouvrage Les Catalans aux éditions Babelio. Alors, le point de bascule de cette nouvelle crise politique en Espagne, c'est le rejet par le Parlement du projet de loi de finances 2019 présenté par le Premier ministre socialiste. C'était le 13 février. Ses alliés, les partis indépendantistes catalans, refusaient de voter pour, comme l'expliquait Alfred Bosch, le ministre catalan de l'Action extérieure.
Le budget est un projet politique de M. Sanchez. Là, nous avons dit: écoutez, il faut parler de tout. Vous avez dit qu'il y aurait du dialogue. C'est où le dialogue? Vous voulez parler pas du droit à décider. Vous voulez parler pas de prisonniers politiques. Et vous voulez seulement qu'on parle du budget. Mais c'est pas juste ça. C'est très difficile pour nous. S'il n'y a pas le climat de dialogue et on n'accepte pas à parler de tout ce qui est important, on voit pas comment on peut voter pour les choses qui intéressent à M. Sanchez.
Anthony Sfez, il faut peut-être rappeler le rôle des partis indépendantistes catalans dans l'arrivée au pouvoir de Pedro Sanchez. C'était en juin 2018, un rôle déterminant à ce moment-là.
Oui, il faut rappeler que M. Sanchez n'est pas arrivé au pouvoir à la suite d'élections générales, mais à la suite d'une motion de censure qu'on appelle constructive en droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'un gouvernement en place est substitué par un nouveau gouvernement sans qu'il y ait d'élections, mais il est substitué à la suite d'un vote parlementaire. La motion de censure constructive, c'est que ceux qui la posent proposent un gouvernement en substitution de celui qu'il remplace. En l'occurrence, il s'agissait de remplacer Monsieur Rajoy. Donc, en réalité, Rajoy n'a pas été renversé par une majorité qui adhérait au programme de Monsieur Sanchez, mais par une majorité de pur rejet. Mmh. C'est-à-dire que les indépendantistes catalans ont sauté sur l'occasion de se débarrasser de celui qu'ils considèrent comme le pourfendeur de leur liberté, celui qui a envoyé des policiers contre les manifestants lors du référendum du 1er octobre, mais il n'y avait pas de front politique. Et lorsque on entend le responsable politique catalan feindre la surprise face à une soi-disant trahison de Monsieur Sanchez, en réalité, il n'y a rien du tout, parce que Monsieur Sanchez n'a jamais promis de référendum, il n'a jamais promis de droit de décider. Les socialistes s'y sont toujours opposés.
Mmh. Alors c'est ça, Henri de Laguérie, on a l'impression qu'on entend la déception d'Alfred Bosch, comme s'il y avait eu une négociation entre le Premier ministre et les partis catalans, qui manifestement n'avait pas été concrétisée.
Non, en fait, la déception, elle vient surtout des rangs de la gauche, des socialistes et aussi de la gauche alternative de Podemos, parce que ce budget, c'était un budget extrêmement favorable à la Catalogne, avec beaucoup de mesures sociales, beaucoup d'investissements pour la Catalogne. Jamais, je crois que la Catalogne n'avait eu un budget aussi intéressant pour elle, parce que rappelons que voilà, chaque région fait un petit peu ses calculs et ses comptes et regarde combien elle reçoit dans ce nouveau budget. C'était clairement un budget pour séduire les Catalans, pour séduire les indépendantistes. Et finalement, les indépendantistes, prisonniers un petit peu de leur discours et de leurs promesses qui ne peuvent pas tenir, c'est-à-dire mettre en place cette République catalane, ils ont fini par voter contre. Mais c'est étonnant parce que le parti d'Alfred Bosch qu'on a entendu, ses membres, lors du vote et lorsqu'ils ont voté non, ils faisaient une tête d'enterrement. On les sentait gênés finalement de faire tomber Pedro Sanchez, parce que peut-être qu'à cause d'eux, indirectement, c'est peut-être la droite qui va revenir au pouvoir. Et si c'est la droite, je peux vous assurer qu'il n'y aura sûrement pas un budget aussi favorable aux Catalans que ça ne pouvait l'être avec les socialistes.
Si on remonte un peu en arrière, Anthony Sfez, comment on pourrait décrire les relations entre le PSOE, donc le Parti Socialiste Espagnol, et puis les Catalans au plus fort de la crise? Comment s'était positionné ce parti au moment justement du référendum illégal, donc d'octobre 2017?
Le Parti Socialiste s'est situé du côté de la Constitution espagnole et la préservation de la légalité constitutionnelle. À aucun moment, le Parti Socialiste n'a défailli dans son soutien à l'action de Mariano Rajoy. Alors, oui, il a quand même mesuré en disant que le responsable à l'origine de tout ça pouvait être le Parti Populaire, puisque c'est lui qui a mené cette campagne très agressive contre le statut d'autonomie de la Catalogne de 2006, qu'il a porté devant le tribunal constitutionnel et qui a abouti à cette sentence de 2010 qui a complètement annihilé, il faut le dire, les objectifs du statut d'autonomie de 2006. Donc, il y a une position qui est certes celle du Parti Socialiste qui est moins dure vis-à-vis des revendications autonomistes et qui accepte un degré d'autonomie peut-être plus élevé. On a même entendu Sanchez parler peut-être d'une réforme du statut d'autonomie récemment. Mais sur la question essentielle, l'unité de l'Espagne, la question fédérale ou le fédéralisme plurinational, ça ce sont effectivement un registre plutôt de la gauche Podemos. Le droit de décider, l'autodétermination, le fédéralisme plurinational, ce sont des thématiques qu'on retrouve assez peu, qu'on a trouvé au moment de la transition chez le Parti Socialiste, mais qui ont été complètement abandonnées à la suite de la transition. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est clairement du côté des décisions fondamentales qui ont été prises en 78 et du maintien de ces décisions fondamentales.
C'est pour ça qu'on disait le gouvernement de Pedro Sanchez si fragile et que ça n'a pas étonné grand monde, cette chute il y a une dizaine de jours et la convocation d'élections.
Bah, c'était assez prévisible. Hein. À partir du moment où vous êtes dans une démocratie parlementaire, vous ne pouvez pas gouverner si vous n'avez pas un minimum une majorité stable. Ce qui était même surprenant en réalité, c'est qu'il n'est pas dissous plus tôt. Quand vous arrivez au pouvoir avec une motion de censure qui est en réalité une motion de censure qui est purement destructive et qui n'a rien de constructive, et qu'il faut dissoudre. Il aurait dû dissoudre plus tôt parce qu'il n'avait pas les moyens de gouverner. Donc il l'a pu pendant cette période-là. Bon, il a pu adopter quelques mesures symboliques. Sur la question, on en parlera peut-être tout à l'heure, de l'exhumation de Franco. Récemment, il s'est rendu sur la tombe de Républicains. C'est toute cette thématique de la mémoire historique. Mais quand vous n'avez pas de majorité parlementaire dans une démocratie parlementaire, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Alors d'un côté, donc, Pedro Sanchez est lâché par les indépendantistes catalans. Et de l'autre, la droite et l'extrême droite lui reprochent d'être trop indulgent avec les séparatistes, comme ses militants lors de la manifestation du 10 février à Madrid.
Il est nécessaire qu'apparaisse un nouveau gouvernement qui ne rompt pas l'unité de l'Espagne.
Nous avons un président qui joue avec l'unité des Espagnols et on ne joue pas avec cela. Nous sommes venus ici pour dire à Pedro Sanchez que s'agissant de l'Espagne, il n'y a rien à négocier.
Henri de la Guérie, à quel point diriez-vous que la crise catalane a polarisé la politique espagnole ? Tous les partis politiques se positionnent ouvertement par rapport à cette question-là ?
Oui, effectivement, la Catalogne conditionne complètement la politique espagnole. C'était le cas avant, mais pas à ce point-là. Et là, c'est vrai que depuis tout ce qui s'est passé à l'automne 2017, ça a un rôle absolument fondamental. Et c'est vrai qu'une semaine avant que Pedro Sanchez ne convoque des élections et que parce que son budget a été rejeté, on a eu cette manifestation assez étonnante de plusieurs partis, la droite, le Parti Populaire, le parti de centre-droit sud d'Adanos, qui est un parti né à Barcelone contre les indépendantistes, mais aussi l'extrême droite, et ils se sont réunis juste pour demander à Pedro Sanchez de s'en aller. Il lui reprochait ce dialogue, il lui reprochait selon leurs mots, ses concessions. Or, les concessions, il n'y en a eu aucune, parce que très concrètement, Pedro Sanchez, la seule chose qu'il a fait, c'est effectivement discuter, dialoguer avec les indépendantistes. Il y a eu plusieurs réunions, on avançait un petit peu, on avançait sur des petites choses, ça prendra du temps, ça prendra forcément beaucoup de temps et ça ne va pas se résoudre en quelques semaines. Mais rien que le fait de dialoguer, ça insupporte une partie de la droite espagnole. Rappelons que cette crise catalane, elle a aussi réveillé un nationalisme espagnol très, très, très fort.
On va y revenir évidemment. Anthony Sfès, finalement, sur l'échiquier politique espagnol, où se trouvent maintenant les alliés des partis indépendantistes catalans ? Est-ce qu'ils en ont encore ?
Pas véritablement. Ils ont à la limite les partis nationalistes basques qui peuvent les soutenir. Ils ont peut-être Podemos sur certains points, mais globalement, c'est vrai que sur l'échiquier national, mais à partir du moment où il y a une volonté de rompre l'ordre constitutionnel auquel adhèrent les principales forces politiques espagnoles, ça devient difficile de trouver des alliés, et ça va être encore plus difficile parce que c'est vrai qu'on peut arriver sur certains points à des accords, à avancer sur certaines questions, mais ça sera très difficile de parvenir à une négociation qui puisse aboutir à quoi que ce soit. Déjà, tant qu'on continuera à parler de la question de l'autodétermination, puisque tant qu'on parle de ça, il n'y aura pas d'accord. On peut discuter autant qu'on veut, on ne se mettra jamais d'accord sur ça, parce que les Espagnols, enfin en tout cas les partis majoritaires, n'accepteront jamais l'autodétermination. Et tant que les Catalans la revendiqueront comme principal point de négociation, il n'y aura pas d'accord. Et encore moins si on a une condamnation à des peines lourdes pour les leaders indépendantistes catalans. Si on se retrouve avec des leaders indépendantistes catalans qui écopent de peines de prison de 15-20 ans de prison, là, ça sera carrément impossible de négocier, parce que ça sera la revendication principale, ce sera libérer les prisonniers politiques. Et c'est difficile dans un système de séparation des pouvoirs, c'est pas impossible, mais ça, en tout cas, ça difficulterait énormément les relations entre les partis politiques catalans et espagnols.
Alors, on a compris que cette crise avait vraiment clivé le paysage politique espagnol. Est-ce qu'aujourd'hui, cette crise favorise davantage la droite ?
Oui, clairement, oui. On l'a vu avec Vox. Vox, c'est un petit parti qui n'existait quasiment pas politiquement jusqu'aux élections en Andalousie. Et quand vous regardez les thématiques de campagne qui ont été mises en avant à des élections qui sont pourtant régionales, qui n'étaient pas des élections nationales, on a très peu parlé de l'Andalousie à ces élections-là. Et on a beaucoup parlé, bon, de l'immigration, comme dans toute l'Europe.
Parti d'extrême droite, hein, il faut le rappeler, né en 2013, effectivement, qui permet une alliance, donc maintenant au pouvoir en Andalousie. C'est vraiment sur la crise catalane, finalement, qu'il a explosé, ce parti, en tout cas, qu'il s'est fait mieux connaître.
Alors, il y a évidemment la question migratoire, comme dans toute l'Europe, mais il y a aussi, vous avez raison, c'est très important, la question de l'unité de l'Espagne. C'est l'un des éléments au cœur du discours de Vox, et ça explique aussi le succès de Ciudadanos, parce que c'est aussi Ciudadanos qui porte ce discours, comme l'a dit l'intervenant précédent. La question de Ciudadanos, c'est que Ciudadanos est né en Catalogne pour combattre l'indépendantisme catalan, pour combattre l'hégémonie de l'indépendantisme catalan en Catalogne. Donc ce sont des partis qui sont légitimes, en quelque sorte, dans l'opinion publique, à défendre cette question de l'unité, ou du moins trouvent un écho fort en défendant ce principe. Et Vox, en plus, va plus loin que les autres partis politiques, parce qu'il va jusqu'à dire qu'il faut tout simplement illégaliser les partis qui iraient contre la Constitution, qui prendrait la rupture de l'ordre constitutionnel. Il va même jusqu'à demander également qu'on revienne sur le système des autonomies. Et ça, c'est un discours fort, puisqu'il y a beaucoup d'Espagnols qui ressentent que l'un des problèmes essentiels en Catalogne, c'est qu'on aurait eu une sorte d'endoctrinement par la communauté autonome catalane et par notamment l'éducation des petits Catalans, des jeunes, etc. Et qu'à long terme, cet endoctrinement pourrait effectivement rendre irréversible la situation. Donc quand Vox arrive et dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre l'éducation et on va leur inculquer des bonnes valeurs, entre guillemets, ça va changer les choses.
Henri de la Guérie, ça veut dire que cette crise catalane, l'organisation de ce référendum a vraiment fait peur à une partie des Espagnols sur l'avenir de leur pays, ou sur, en tout cas, ce qu'ils étaient en train de traverser.
Oui, c'est vrai, non, c'est vrai que là tout s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai qu'à octobre 2017, il y a une tension très très forte en Catalogne, mais aussi dans le reste de l'Espagne. C'est assez étonnant, parce que moi j'ai traversé pas mal l'Espagne à ce moment-là, quelques semaines après, et on a vu partout dans tout le territoire espagnol hors de Catalogne des drapeaux espagnols, des gens qui ont planté des drapeaux à leurs fenêtres ou dans leur jardin, un peu partout dans le pays. Et c'est vrai que ça a réveillé quelque chose de très fort, mais après c'est une question qui est présente depuis toujours, hein, cette question des nationalismes, qu'ils soient basques ou catalans. Et c'est vrai que les partis conservateurs, notamment, ont toujours eu des discours très très durs contre ces nationalismes. Maintenant, c'est vrai que quand ce nationalisme devient un indépendantisme et se transforme avec cette tentative de sécession, c'est sûr que ça va beaucoup plus loin. Maintenant, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que on se rend compte, et notamment avec le procès des indépendantistes dont on va peut-être parler, que cette tentative de sécession, finalement, il y avait une grande part de bluff de la part des dirigeants indépendantistes, et qu'ils ne voulaient pas aller jusqu'au bout parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et en même temps, on a cette droite espagnole qui, elle, ne veut pas qu'on considère que c'était du bluff, qui est persuadée que c'était véritablement un coup d'État et qui aimerait qu'il y ait des peines de prison très lourdes.
Alors un discours qui lui sert en plus, enfin, qui forcément oui, sert à la droite, et on va le voir dans les sondages.
Et d'ailleurs, il faut préciser que il y a une possibilité en Espagne pour n'importe qui d'être ce qu'on appelle accusation populaire lors d'un procès. Et concrètement, Vox, l'extrême droite, est présente dans ce procès contre les indépendantistes, et finalement elle a pignon sur rue. Elle profite de ce procès pour tous les jours s'exprimer devant les micros, puisque l'avocat de Vox dans le procès des indépendantistes n'est autre que le numéro 2 du parti.
Alors ce procès, donc il va forcément se dérouler en parallèle de la campagne. On verra si ça va peser. Donc une quinzaine de leaders indépendantistes jugés depuis le 12 février pour rébellion, détournement de fonds. Il y a une dizaine de jours, 200 000 personnes manifestaient leur colère à Barcelone pour dénoncer un procès politique.
Nous nous devons d'être là puisque nous ne pouvons rien faire d'autre. Ça paraît symbolique, mais nous, ça nous aide. Plus on sera nombreux à manifester, plus ils verront qu'en Catalogne, on soutient nos prisonniers. En fin de compte, s'ils sont en prison, c'est pour nous, parce que nous leur avions dit que nous voulions voter.
Anthony Sfès, quelle pourrait être l'influence de ce procès alors sur la campagne pour ces législatives? Ça va encore attirer toute l'attention et le débat sur la crise catalane, sur cette question-là?
En théorie, ça ne devrait pas, puisque ça relève du pouvoir judiciaire et normalement, les hommes politiques, le pouvoir politique ne devrait pas avoir d'influence directe sur ce procès. Mais je pense qu'il y aura quand même à l'esprit, tout le monde se rappellera de ce qui s'est passé en 1934, lorsque un leader indépendantiste catalan, qui avait déjà en 1934 déclaré l'indépendance, enfin l'État catalan dans la République fédérale catalane, avait été condamné à 30 ans de prison par un tribunal espagnol, par le tribunal de Garantías, et qui ensuite, un an plus tard, après l'arrivée du Front Populaire au pouvoir, a été amnistié. Donc, on peut imaginer que cette question sera dans le débat. Est-ce que si la justice condamne, est-ce que vous avez l'intention de pardonner? Est-ce que le pouvoir politique va intervenir pour essayer d'amoindrir les peines? Donc il est envisageable que ce soit une thématique. Et évidemment, de ce point de vue-là, ce sera plutôt la droite qui aura tendance à avoir un discours plutôt dur, disant on va laisser aucune concession, parce que s'il n'y a pas de condamnation exemplaire, ils recommenceront. Donc, ce sera une thématique qui sera au cœur de ces élections. Ce sera évidemment pas la seule, mais elle est importante puisque, comme on le disait tout à l'heure, le système politique espagnol est complètement perturbé par cette question indépendantiste. C'est vraiment devenu un facteur clivant. En France, nous, on a, au-delà du facteur droite-gauche, on a la question européenne. En Espagne, la question européenne, ça n'intéresse pas du tout, ou très peu. Ce qui intéresse, c'est vraiment la question interne, l'état des autonomies.
Et alors, Henri Laguérie, il suffit de regarder aussi les sondages, les derniers sondages, pour voir un petit peu vers quel côté va pencher la balance ce 28 avril. Le PSOE, le Parti Socialiste, a priori, n'a pas assez d'alliés solides pour faire face à une alliance de la droite, de l'extrême droite aussi.
Non, effectivement, ça sera très compliqué pour le Parti Socialiste, mais si on peut faire un pronostic, moi je suis quasiment persuadé qu'on n'aura pas de gouvernement avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que ça fait désormais 3 ans en Espagne que la situation politique est complètement bloquée. On a un système politique avec ce système à la proportionnelle qui doit obliger les partis politiques à s'entendre, à faire des concessions, à négocier, sauf qu'on a une culture politique espagnole qui en est absolument incapable. La négociation ici, ça ne fait pas partie de la culture politique locale, et on a déjà des partis qui s'adressent des vétos mutuels, et on sent qu'on va encore une fois vers une Espagne ingouvernable, parce que même si la droite s'allie avec l'extrême droite, il n'est pas certain qu'elle ait la majorité absolue, donc on va encore vers une situation de blocage, et il est possible que les socialistes cherchent encore à séduire les indépendantistes, parce que peut-être que leurs voix seront nécessaires pour gouverner. En tout cas, juste pour préciser, le verdict du procès ne tombera pas avant les élections, donc il n'est pas certain que ce procès finalement change beaucoup de choses dans le vote, le vote des électeurs, et notamment en Catalogne où cette question de l'indépendance et les choses sont assez figées, on a vraiment un 50-50.
Pour conclure, Anthony Sfès, il nous reste quelques secondes, vous seriez d'accord pour dire qu'on va encore arriver dans une période très trouble qui risque de durer, incertaine, après ces élections?
Il y a deux options, c'est soit effectivement une majorité, une coalition de droite, avec Vox, Ciudadanos et le PP, comme on a eu en Andalousie, avec un gouvernement PP, Ciudadanos et probablement pas de ministre de Vox, mais au moins un soutien à la marge de Vox. Et si cette majorité n'advient pas, c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas d'alternative. Après, la particularité du système constitutionnel espagnol, c'est que vous pouvez quand même gouverner avec un second vote d'investiture, même si vous n'avez pas de majorité absolue. Mmh. Une majorité relative, c'est ce qui s'est passé avec Mariano Rajoy. Donc si on se trouve dans une situation où il n'y a pas du tout de majorité absolue, on peut imaginer, peut-être pour éviter justement l'ingouvernabilité, puisque les Espagnols ont quand même vécu un an, c'est presque un an cette situation, et avec leur recul, peut-être qu'ils ne voudront pas, surtout avec la crise catalane à côté, vivre la même chose. Donc peut-être que les partis de gouvernement trouveront un moyen pour essayer de proposer une alliance, quelque chose, mais c'est peu envisageable.
On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur RFI et dans Décryptage. Merci beaucoup, Anthony Sfès, d'avoir été avec nous. Merci, Henri de Laguérie, en duplex de Barcelone. Je rappelle le nom de votre ouvrage, merci. Les Catalans, c'est aux éditions Babelio. Et merci à toute l'équipe de Décryptage, Louise Caledec, Françoise Delignon, Gérard Perrault et Luna Timbal, qui étaient ce soir à la réalisation. Tout de suite, un point sur l'actualité africaine.